Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'un garçon qu'un jour on a enfermé contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Pour rien, il n'avait aucune pathologie. Il est resté prisonnier par la seule volonté d'un psychiatre. Ce garçon s'appelle Marius Jauffret, il en a fait un livre qui paraît chez Anne Carrière, Le Fumois. Son histoire est l'histoire de 82 000 Français chaque année, qui sont internés d'office à la demande d'un tiers. 82 000, c'est 12 000 de plus qu'en prison. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Duhal de Dieu le veut, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Ma première cuite au rhum négrita, celui qui sert à flamber les crêpes. Et j'y apprends que je tiens mieux l'alcool qu'un Polonais défiant deux Biélorusses. Aujourd'hui, je vis d'un litre de Label 5 par jour et deux bouteilles de Coca. J'embraye après cinq verres. L'alcool m'apporte une sérénité qu'il m'est impossible de trouver dans la lucidité. L'alcool me permet de supporter une angoisse que sans lui, j'aurais abrégée en sautant du septième étage. Un soir, place des Vosges à Paris, je suis à la terrasse d'un café, bien décidé à déprimer tranquille. Mes mains se mettent à trembler. Le manque d'alcool. Je dois boire encore. S'il vous plaît, ça serait possible d'avoir une lèvre avec une paille? Il m'apporte la bière sans commentaire et sans paille. Mais il y a 2000 chèques abandonnés sur la table d'à côté, alors j'attrape la paille la moins mordillée et j'aspire ma bière à petites gorgées. Mais j'ai à peine fini que mes mains et mes jambes se mettent à trembler plus fort. La crise s'annonce. Mon frère, Thomas, habite dans le coin. Alors est-ce que je me suis mis à cette terrasse dans l'espoir qu'il tombe sur moi? Mon frère, c'est la seule personne à qui je peux parler sans faire semblant. Et d'ailleurs, le voilà.
Marius, t'es encore bourré, c'est ça? Fous-moi la paix!
Il m'attrape par le bras pour m'arracher à la terrasse et je me retrouve cul par terre.
J'ai besoin d'un truc fort. De la morphine. De la vodka.
Il me parle, mais je ne suis pas en mesure de l'écouter.
Laisse-moi crever.
Et là, comme un coup de couteau me traverse la tête, je fais un dernier effort pour me mettre debout.
Marius ? Marius, tu m'entends ? Marius, réponds-moi, Marius ! Taxi ! Taxi !
Mon frère me jette sur la banquette arrière.
Qu'est-ce qu'on fait là ? On va où ? Marius, t'es trop mal pour que je te laisse dans cet état.
La voiture s'arrête sur un parking, cerné de grilles.
Allez Marius, sors. C'est la Riboisière ?
Non, c'est Sainte-Anne. Avec tes crises de panique, les médocs que tu prends, l'alcool, c'est mieux de venir ici. Sainte-Anne, c'est le grand hôpital psychiatrique de Paris. Je m'en remets à son intuition, à son pragmatisme. Il sonne. Un type apparaît, l'air bad boy, avec les cheveux gras et les aisselles auréolées de sueur.
C'est mon frère, il a trop bu. J'ai peur qu'il fasse un malaise. Ok, on va l'examiner.
Je me dis, demain je serai requinqué. On me donnera un nouveau traitement pour la dépression, des cachets plus efficaces que le Valium, et peut-être qu'on me recommandera un psychiatre, plus talentueux que les charlatans que j'ai consultés jusqu'ici. Ou mieux, un addictologue, qui se prendra pour le docteur Freud. Bonjour, monsieur Geoffrey. Je suis le psychiatre qui va vous examiner. Je peux sortir 2 minutes pour fumer ? D'accord. Marco, tu peux l'accompagner ? Pendant ce temps-là, à l'intérieur, le psychiatre discute avec mon frère. Mon frère m'embrasse. Je reviendrai demain matin, Marius. Hein, tu vas passer la nuit ici. Je viens te chercher à 9h, hein ? 9h, c'est bien, docteur ? Et demain, j'ai pensé que si t'étais en forme, on pourrait se faire un petit footing. Mon frère s'est peut-être un peu emballé. Le bureau du psychiatre est étroit comme un KGB. Alors, qu'est-ce que vous avez bu avant de venir ici ?
Je dirais l'équivalent d'une bouteille de whisky.
D'accord. À quelle heure est-ce que vous avez commencé ?
Je crois qu'il était 18h au réveil, quoi.
Vous avez pris autre chose ? Cannabis, cocaïne, médicaments ?
J'ai pris un Valium pour me calmer, parce que sinon je peux même pas sortir faire mes courses.
Bien. Marco ! Marco, vous l'accompagnez pour une prise de sang. Bon courage. Après la prise de sang, Marco ouvre une porte à coups de pied.
Assieds-toi là. Déshabille-toi, je vais te piquer dans la fesse. Ça va te faire un peu mal. Voilà.
Et là, il sort des sangles, des sortes d'élastiques en caoutchouc, et il m'attache par les pieds aux barreaux du lit. Mais pourquoi est-ce qu'il m'attache ? Il finit par me détacher et me changer de chambre. Et quelques heures plus tard, c'est le matin. Et mon frère est de retour.
Monsieur Geoffrey ?
Bonjour, je prends la suite du psychiatre qui vous a vu cette nuit. Alors monsieur, la situation de votre frère nous apparaît complexe. Hein ? Il risque de développer ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff. C'est une maladie qui est un peu comme un ver qui grignote une pomme. C'est-à-dire que le corps et l'esprit s'en vont en quelques années, jusqu'à ne plus marcher, avec des troubles de la mémoire, d'abord immédiates, et puis ensuite des délires, la démence, et puis la cécité. C'est donc pourquoi je propose que votre frère soit hospitalisé au plus vite.
Mon frère est ingénieur. En général, il est du genre qui croit à la science. Mais là, il émet de gros doutes.
C'est-à-dire que mon frère était bourré hier soir. Il est bourré tous les soirs. Alors je comprends qu'il faut prendre en charge son sevrage. Mais là, ce que vous me dites, là, je suis pas sûr, quoi. Vous n'êtes pas médecin, monsieur. Il est de ma responsabilité de placer votre frère dans un établissement adapté à son état. Et d'ailleurs, si je le faisais pas, vos parents auraient le droit de m'attaquer. Bon, alors vous signez ici. C'est quoi ?
Eh bien, c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. C'est un document légal.
Vous voulez faire interner mon frère ? Mais enfin, elle est venue ici de son plein gré. Et où est-ce que vous comptez l'hospitaliser ?
Alors, c'est sectorisé, hein ? Donc pour lui, ce sera dans le 13e arrondissement. Bon, si c'est pas vous qui signez, ce sera moi, hein ? Je suis habilité à le faire. Mais disons que ça serait préférable que ce soit vous, quoi.
Je vais rester combien de temps là-bas ?
2 jours, sans doute.
Allez, signez. Et il a signé. Et là, deux infirmiers me prennent par les épaules, ils me saucissonnent sur un brancard, les bras et les pieds attachés. et l'ambulance démarre en trombe vers le groupe public de santé Perrault-Vaucluse, dans le 13e arrondissement. On me détache, lien par lien.
Vous allez voir l'infirmière en chef.
Et là, une grosse dame aux cheveux rêches fait son apparition au bout du couloir. Et elle se laisse tomber comme une pierre sur sa chaise.
Bon, ici c'est un arrondissement parisien par étage. Donc vous habitez le 9e, et ben donc vous êtes au 3e. Je peux voir le psychiatre, le docteur Faucon. Il vous verra en temps voulu, hein, et vous ferez un bilan avec lui dans les jours qui viennent.
Les jours qui viennent? C'est mauvais signe, ça. Au 3e étage, on m'introduit dans un cagibi blanc avec une odeur de vieux.
Bon, ben, voilà votre chambre, hein? C'est la numéro 313. Bon séjour, monsieur.
Je passe la main sur le couvre-lit. Il est râpe comme de la corde. Une corde. Une corde. Je balance un regard circulaire. Je pourrais en faire une corde. Et cette corde, je pourrais l'accrocher à l'applique en ferraille qui accueille le néon. Et après, je pourrais faire un nœud coulant en 8. Je sais le faire, j'ai fait 10 ans de catamaran. Parce que ces 4 mètres carrés de cellule, je ne m'y habituerai pas. Je ne m'y habituerai pas, jamais. Le réfectoire est une usine. Les cuisiniers servent à la louche et à la chaîne. Il faut manger, c'est tout. Manger comme on pisse.
T'es nouveau, toi ?
Oui, je suis arrivé cet après-midi.
Moi, c'est Kiki. Et toi ?
Moi, c'est Marius.
Oh, Marius ! C'est quoi ce nom ? Il y a des parents, je te jure, faudrait les mettre en prison. T'es sous quel régime ?
Hospitalisation sans consentement.
Oh ! Il y a pas pire régime. Tu peux plus partir quand t'es sous ce régime.
Ah, mais moi, je dois sortir dans 2 jours.
2 jours ? Moi, j'ai connu personne qui soit resté 2 jours ici.
Et toi, t'es là depuis combien de temps ?
Eh ben, 2 ans.
2 ans. Je me vois tomber d'une falaise, m'écraser sur les rochers. Même s'il raconte qu'il est là parce que il a sectionné les couilles de l'amant de sa copine. Le lendemain, me voilà face au docteur Faucon.
Alors, jeune homme, comment vous sentez-vous dans cette unité ?
Ben, j'ai rien contre cet endroit, hein. Mais pour tout vous dire, je me sens pas à ma place, quoi.
Je vois. Pourtant, vous avez un dossier chargé, hein. Alcoolisation massive, prise anarchique de médicaments, isolement social, risque de fugue, trouble de la personnalité.
Ben, risque de fugue. Je comprends pas, je suis majeur.
Oui, enfin, je lis qu'à Sainte-Anne, vous avez quitté votre chambre sans autorisation.
Mais c'était pour aller à l'accueil, monsieur.
Bon. En premier lieu, nous allons mettre en place votre sevrage. Et puis dans un deuxième temps, il faudra...
Il a choisi de me maintenir en observation. Et l'infirmière me verra pour le traitement.
Docteur, en général, combien les gens restent ici ?
Il me dit qu'il ne peut rien me certifier, qu'il n'y a pas de règles. Alors je lui réponds que pour moi ça ira sûrement vite, que ça n'est qu'un problème d'alcool. Et là il élève la voix et il me met à la porte, sans même m'accorder l'onction de sa poignée de main.
Monsieur Geoffrey, tenez, voilà du Largactil, et puis tenez, voilà votre Valium.
Le Largactil. Ils en donnent à tout le monde. C'est un neuroleptique qui existe depuis 1951. On l'appelle la camisole chimique. Elle transforme les patients en pierre. Ça fait une semaine que je trimballe ma carcasse de couloir en couloir à la recherche du docteur Faucon. Aujourd'hui, mon frère est venu me rendre visite. Et justement, voilà le docteur Faucon.
Docteur Faucon ? Bonjour.
Je suis Thomas Geoffrey, le frère de Marius. On s'est parlé au téléphone. Nous avions rendez-vous. Vous m'avez dit qu'on pourrait s'entretenir à propos de mon frère. Monsieur, s'il vous plaît.
Bon, 5 minutes, hein ? Pas plus.
Voilà. Maintenant qu'il est sevré, je pensais que mon frère pourrait continuer de se soigner en ambulatoire, quoi. J'ai contacté un psychiatre et il s'engage à le suivre à l'extérieur.
Oui. Mais je vais le garder encore en observation.
Il n'y a pas de recours ?
Vous pouvez écrire au directeur, mais je pourrais m'opposer à sa décision. Quoi qu'il en soit, à un moment, il sera présenté au juge des libertés.
Ça servira à quelque chose ? Enfin, docteur, vous êtes incapable de poser un diagnostic. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a passé des examens qui concernent le syndrome de Korsakoff ?
Korsakoff ? Mais de quoi est-ce que vous me parlez ? Enfin, il est beaucoup trop jeune pour Korsakoff. Bon, au revoir, monsieur.
Pourquoi est-ce que je n'entamerais pas une grève de la faim ? Je pourrais informer les médias, je pourrais lancer une pétition sur Internet, écrire au président de la République. Pourquoi je ne fais rien ? Parce qu'ici, on dresse les patients. On nous inocule le respect de la psychiatrie, en même temps que le Larcactine. La seule personne qui a le droit de me faire sortir, ça n'est pas mon frère, ça ne sont pas mes parents, ni même un juge ou un avocat. C'est le psychiatre. Le psychiatre a la main mise sur l'établissement. Aucun juge ne contrarie jamais ses décisions. Le psychiatre est au-dessus des lois et des droits de l'homme.
Monsieur Geoffrey, rendez-vous avec l'équipe psychologique, bureau G108.
Elle me fait entrer dans un bureau tapissé de moquettes grises.
Asseyez-vous. Tout d'abord, veuillez remplir ça.
C'est un QCM. Prenez-vous de la drogue ? Jamais, parfois, souvent, très souvent. Êtes-vous suicidaire ? Avez-vous des idées noires ?
Vous vous sentez bien, monsieur ?
Pour tout vous dire, non. Non, je me sens prisonnier.
Vous savez, c'est ce qu'ils disent tous au début.
Vous pouvez rien faire pour moi. Mais je suis quand même content de vous voir parce que le docteur Faucon, je le vois jamais.
Vous avez besoin de le voir ? Vous savez, il est très compétent. Hein ?
Je veux bien vous croire. Mais moi, je l'ai vu que 2 minutes depuis que je suis là.
Et puis merde, quoi ! Allez vous faire foutre !
Et là, je lui balance le questionnaire, je renverse la chaise d'un coup de pied et une alarme retentit. 2 aides-soignants fondent sur moi. Ils m'emmènent dans une chambre minuscule au 6e étage.
Pas la peine de m'attacher, hein. Je suis pas agressif.
C'est pour votre bien, monsieur.
Où est le psychiatre ? Où est le psychiatre ?
Une fille blonde se penche sur moi avec une seringue à la main et... En fin d'après-midi, le docteur Faucon me fait l'honneur de me recevoir.
Bien, tenez. C'est une convocation au tribunal concernant la procédure de contrôle d'hospitalisation sans consentement. Bon, c'est de la paperasse, hein, tout ça.
La loi du 5 juillet 2011 fait intervenir le juge des libertés et de la détention. Mais c'est une mascarade. Le juge se range toujours à l'avis du psychiatre. Et le nombre de personnes internées sans consentement a doublé en 10 ans. Aujourd'hui, on est 82 000, c'est-à-dire 12 000 de plus qu'en prison. Et plus de 3/4 des patients ne sont atteints d'aucune pathologie précise. Ils ne sont pas malades. Et leur chance de retrouver leur liberté devant le juge est de 0. Si on n'a pas de famille, si on est orphelin, c'est perpétuité. Et donc ce matin, j'ai rendez-vous au tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur ?
Bonjour, monsieur.
Je suis votre avocate.
Le bureau de la juge est une petite pièce avec une grande fenêtre dorée.
Bien, monsieur. Expliquez-moi votre situation, je vous écoute.
Je lui explique qu'on ne me donne pas de médicaments, qu'on m'a retiré mes antidépresseurs et que c'est dur à supporter, que j'ai peur pour ma santé si je reste dans cet endroit.
Très bien, jeune homme. Maître, je vous écoute.
Son préchi-prêcha rempli de poncifs dure à peine 2 minutes.
Bien. Au revoir, monsieur. Le délibéré aura lieu vers 13h.
Et il tombe par fax à mon retour à l'asile. Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet monsieur Marius Chauffret. Ça fait 15 jours que je suis coincé ici. 15 jours de tôle. 15 jours qu'on me balance du monsieur comme une balle à un labrador. On le garde en observation, le monsieur. Il va prendre son traitement, le monsieur. Faut manger, le monsieur. Faut se lever, le monsieur. Je reviens de la visite rituelle au distributeur de boissons au rez-de-chaussée. Et la surprise, je vois le docteur Faucon foncer sur moi.
Ah ! Je vous cherchais.
Désolé, docteur, j'étais en bas pour boire un café.
Venez. J'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. J'ai eu votre frère au téléphone. Il dit qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous logiez chez lui pour un temps indéfini. Or, il se trouve que je prends mes congés à la fin de la semaine. Et je ne vous cache pas que je vous aurais bien gardé en observation pour quelque temps encore, mais nous nous sommes mis d'accord avec votre frère pour vous faire sortir vendredi. Vous en pensez quoi ?
Ben, je pense que c'est un bon compromis.
Je le pense aussi.
À présent, comme tout bon tôlard, je connais la date de ma libération. J'aurais été enfermé 17 jours, 22 heures et 33 minutes. La moyenne nationale est de 2 mois pour 80 000 de mes concitoyens. Thomas m'attend sur le trottoir d'en face. Et avec toute la douceur d'un frère, il me serre dans ses bras.
Comme je l'ai dit au docteur Faucon, tu vas passer chez moi tout le restant de tes jours.
Et il me dépose chez moi. J'entre dans mon immeuble, le temps qu'il s'en aille. Et puis quand la voie est libre, je file acheter une bouteille de Gibi. Je la pose sur la table. Et j'imagine l'orgasme intergalactique de la première gorgée. Je tourne doucement le bouchon pour entendre le métal se rompre. Et je me verse un verre. Et je le laisse couler dans ma gorge. De toutes petites gorgées pour laisser monter lentement l'ivresse. Les bouteilles passent, et les jours. Allongé sur mon lit, je ne sors que pour me ravitailler au Franprix. Quand mon portable vibre, je l'éteins. Quand le facteur toque, je ne lui ouvre pas, tant mieux si on me croit mort. La peur de l'enfermement, la peur que les psychiatres viennent me prendre. Elle me hante jour et nuit. Les voisins que je croise sont de potentiels flics en civil, peur d'être arrêtés. Et chez moi, je me déplace sur la pointe des pieds. Est-ce que j'ai mis la radio trop fort ? Est-ce qu'on va me signaler pour avoir tiré la chasse d'eau ? C'est du tapage, Marius ! Vous êtes écroué, monsieur Geoffrey ! Et toutes ces bouteilles que je descends dans de gros sacs poubelles bourrés de papier journal, pour ne pas qu'elles teintent dans l'escalier. Qui boit ça ? Lui ? Tout seul ? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à le faire soigner dans une structure spécialisée ? Et les mégots jetés dans la cour dont la gardienne se plaint, est-ce qu'ils ne sont pas à lui ? Un jour ou l'autre, on m'emmènera pour m'enfermer. Et ce jour est proche. Et puis, un matin de juillet, je me suis levé à l'aube. La veille, je n'avais bu que de la bière. J'ai écouté l'intégrale de Gainsbourg. Mieux vaut ne pas.
penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup.
Et à la nuit tombée, je me suis senti mieux, paisible. J'ai ouvert en grand les fenêtres de mon studio pour laisser pénétrer les bruits de l'immeuble. Plus rien ne me faisait peur. L'homme mauvais et aigre que j'étais devenu en sortant de l'asile se bonifiait avec le temps. Je pouvais à nouveau me regarder dans la glace de l'armoire à pharmacie. Mon corps n'était plus aussi lourd. Et un matin, j'ai commencé à écrire. Si je termine mon livre, alors ce sera la preuve que ni l'asile, ni l'alcool ne m'ont détruit.
Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Le voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.